Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui vous feront voir Molière différemment. Qu'est-ce que signifie parler la langue de Molière? C'est l'une des nombreuses questions auxquelles s'attaquent les linguistes Maria Candéa et Laëlia Véron dans « Le français est à nous », publié aux éditions La Découverte. Ce petit manuel d'émancipation linguistique se penche avec érudition et humour sur les périls supposés qui guetteraient la langue française. Baisse du niveau du français à l'école ou dans les médias, querelle du passé simple et de l'accent circonflexe, écriture inclusive, tous ces débats sont abordés et révèlent les liens subtils entre langue, politique et société. Il est aussi question de Molière, évidemment, dans le dernier livre de Lionel Nakache, « Nous sommes tous des femmes savantes » sorti chez Odile Jacob. La pièce de théâtre sert de point de départ au neurologue pour une réflexion sur les liens entre savoir et sexualité, qui poursuit son travail engagé de longue date sur la construction des subjectivités à notre époque. Et en studio pour parler de ces deux livres ce soir, Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et Alyosha Wadlazowski de L'Express. Bonsoir Alyosha.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Maria Candéa et Laëlia Véron, « Le français est à nous », sous-titré « Petit manuel d'émancipation linguistique » et publié aux éditions La Découverte. Maria Candéa est linguiste, maîtresse de conférences à la Sorbonne Nouvelle et membre du comité de rédaction de la revue GLAAD, consacrée aux recherches sur la langue, le genre et les sexualités. Laëlia Véron est maîtresse de conférences en stylistique à l'Université d'Orléans. Toutes deux signent donc cet ouvrage sur l'épineuse question de la langue française afin de répondre à tous ceux et à toutes celles qui annoncent son déclin quand ce n'est pas sa mort. Le livre se penche donc sur un sujet très sensible. Tout producteur de radio en est bien conscient tant il reçoit de mails, je devrais dire des courriels ou des lettres manuscrites pour nous reprocher nos fautes de français et autres anglicismes. Mais quel but poursuivent vraiment les gardiens du temple? Les autrices se font provocatrices en se demandant faussement ingénues s'il s'agit d'abord d'assurer l'entre-soi ou de repousser les souillures venues de l'extérieur. Car ce discours conservateur qui remonte au XVIe siècle est moins selon elle la conséquence d'un amour de la langue qu'à rejet de sa dimension vivante. C'est en linguiste, avec la rigueur et la méthode de leur discipline, qu'elles abordent de manière réflexive la langue française comme objet social, politique, et non comme une entité figée, dotée d'une essence abstraite dont les règles seraient fixées de toute éternité. Égratignons au passage la vénérable Académie française. Qu'est-ce qu'une faute d'orthographe? Une faute de français? Pourquoi ne peut-on dire « je vais au coiffeur »? La beauté du français vient-elle vraiment de sa complexité? Ces quelques questions sont posées donc par Maria Candéa et Laëlia Véron au service d'une affirmation. On peut aimer le français et accepter sa vitalité, ses changements. Alyosha Wadlazowski, je le disais, c'est un sujet épineux.
Oui, c'est un sujet épineux, mais traité de manière absolument passionnante par les deux autrices, effectivement, qui nous proposent une traversée de la langue, en particulier de la langue française, une sorte de voyage, qui fait qu'elles abordent la question de la langue, non pas de manière prescriptive, quelle est la norme définitive qui donnerait telle grammaire ou tel lexique, etc. Au contraire, à chaque fois, elles déconstruisent finalement un petit peu les impératifs qui stopperaient la langue. Elles veulent montrer au contraire qu'une langue est vivante, qu'une langue obéit à une dynamique sociale, politique, à des contextes historiques, mais surtout qu'on peut justement à aborder la langue selon des angles différents qui parfois du coup montrent que on n'est pas toujours d'accord et qu'il faut pas avoir forcément le dernier mot sur une définition, sur un terme, sur même une orthographe définitive sur un des termes. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça ouvre des espaces voilà au sein de la langue française, de notre histoire. Alors leur méthodologie est très intéressante, elle part de partis pris sur lesquels on pourrait croire qu'effectivement, en tout cas bon, ça cette norme là on va pas y toucher, le terme est définitivement installé dans notre histoire, eh ben non. Finalement, parfois même des fautes d'orthographe sont devenues des normes et donc on pourrait s'interroger justement sur l'origine des termes. La langue française a des origines diverses. Prenons juste quelques exemples pour donner cet aspect un peu concret. Ben, le mot français sucre, par exemple, c'est très intéressant de voir qu'il est emprunté à l'italien zucchero, lui-même emprunté à l'arabe tsoukar, qui vient du grec sakaron et lui-même emprunté au sanskrit sarkara, lorsque les Grecs ont découvert la canne à sucre en Inde. Donc ce qui fait une sorte de ramification extrêmement ouverte. Ou un autre exemple sur ce qui est en principe admis, par exemple, on dit que le premier texte français, c'est les serments de Strasbourg. Hein, c'est au début de leur livre, les serments de Strasbourg en 842, qui est un accord militaire entre deux des petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis le Germanique. Et en fait, il y a une double lecture possible de ce texte, puisque c'est une transposition en phonétique du latin du 9e siècle. Et donc, selon les points de vue, on peut dire que, en effet, c'est la naissance des langues romanes écrites, mais en même temps que ce n'est qu'une simple variante ou variation du latin. Donc voilà, c'est intéressant, la manière justement de prendre des angles ou des points de vue différents nous montre que finalement les champs linguistiques sont ouverts. Et effectivement, peuvent varier à différents moments.
Oui, c'est vraiment ça, Aleš Chavalazovský. Il y a une démarche dans ce livre de Maria Candéa et Laëlia Véron. Ça commence toujours par un petit encadré, ce qu'on pense souvent à tort. Et ensuite, mais souvent, on ne sait pas que. Et voilà comment elles déconstruisent, évidemment, notamment, en effet, ce fameux servant de Strasbourg, connu par la retranscription de Nithard, qui est un personnage fameux et dont je conseille un documentaire qui lui a été consacré par la Fabrique de l'Histoire il y a quelques temps. Voilà, je fais un peu d'autopromotion. Et c'est vrai qu'elle retranscrivent souvent, on dit ça et on va pas voir le texte. À lire le texte, Catherine Portevin, il est absolument impossible pour un Français du 21e siècle, peut-être avant ça, de comprendre de quoi il s'agit. Ça montre que notre langue, évidemment, ce qu'on appelle français, évolue avec le temps.
Oui, et puis que instituer le français, c'est d'abord un acte de langage, comme elles le disent quelquefois, c'est-à-dire que il suffit de dire voilà, nous allons parler français pour que la chose se fasse, même si l'édit en question, le texte en question est en fait du latin ou du bas latin. Elle ne cite pas les ordonnances de Villers-Cotterêts qui sont encore plus célèbres, où François Ier impose le français au royaume, et qui là est écrit en français qu'on peut à peu près traduire. Mais enfin, dans ce texte-là, l'adjectif clair, cette fameuse clarté du français, est écrit C-L-E-R-S, et entendible est un terme qui est utilisé pour dire compréhensible. Donc effectivement, la langue vit et qu'elle se transforme, c'est une évidence. Ce pourquoi elle plaide, et ce que je trouve assez intéressant, mais que c'est de dire en fait, pour pouvoir entrer dans une langue, il est aussi très intéressant d'enseigner même l'histoire de la langue, non pas forcément en imposant des cours d'ancien français à l'école primaire, parce que là, pour en avoir fait à l'université, je conçois qu'il soit un peu compliqué de l'imposer, mais de trouver le charme de ce que c'est qu'une langue, de ce que c'est que parler une langue. Ça, je trouve que c'est très réussi, et qu'il y a aussi une fonction de manuel qui est tout à fait assumée, et qui est voilà, c'est d'abord fait pour être utile, ce qu'elles ont fait,
oui.
Ce travail. Et il tranche évidemment avec, et là il est tout à fait engagé, c'est-à-dire il tranche avec les éloges de la langue française, dont on a très régulièrement le bonheur de lire, et qui sont en général des déplorations sur la fin de la langue, la perte de niveau scolaire, la destruction de la langue. Enfin, vous avez parlé dans cette émission du dernier livre de Jean-Michel de la Comté, qui était déjà dans cet esprit-là. Voilà, régulièrement, il y a des déplorations de ce genre-là. Il est frappant, effectivement, de voir que ces dernières années, en même temps que on veut défendre la langue française, en général, on veut aussi défendre l'identité nationale, on veut défendre la République, on veut défendre la pureté originelle du peuple français. Il y a beaucoup de choses idéologiques là-dedans. Alors, cela dit, et elles finissent là-dessus, et tant mieux, je crois qu'on peut aussi ne pas forcément faire des amalgames systématiques en disant que parce que on résiste, parce qu'on aime la langue française, ou on résiste quand même à vouloir supprimer complètement les complexités de l'accord du participe passé, que forcément on est réactionnaire. Il y a plein de manières d'aimer la langue, il y a plein de manières de lui garder sa logique. Et, par ailleurs, je signale aussi, parce que moi, pour avoir fait des études de linguistique, j'ai beaucoup baigné là-dedans, qu'il y a toujours une grande tradition un peu anarchiste chez les lexicographes, ceux qui travaillent sur les mots, sur le vocabulaire, et que les grammairiens sont en général plus conservateurs, ceux qui travaillent sur la structure. Et que d'une certaine manière, il y a une linguistique qui va vers la sociologie, selon les deux autrices sont effectivement représentatives, et une linguistique qui va vers la structure, et donc vers pratiquement ce qu'elles appellent le code civil, et effectivement, la question de la règle. Donc on est entre la justice et la sociologie, entre l'autorité et le laxisme, et tous les débats autour de la langue française sont toujours tirés par ces deux pôles.
Oui, il faut bien comprendre que Maria Candéa et Laëlia Véron ne rejettent pas l'idée de la norme ou de la règle dans la langue. Elles disent juste, puisque évidemment, une langue est faite aussi pour communiquer, pour échanger, et il faut bien un certain nombre de structures, de bases, elles sont linguistes, hein, évidemment, pour y parvenir, Alyosha Waldazowski. En revanche, ce qu'elles invitent à faire, c'est à s'interroger sur comment s'établit une norme, parce que dans cette approche justement historique et politique, il y a une dimension évidemment politique à la langue qui n'est pas d'essence abstraite, qui n'est pas d'une nature, il n'y a pas de naturalité de la langue, Alyosha Waldazowski.
Oui, absolument. Elles ont une formule dans le livre pour un peu définir cette thèse. Elles disent effectivement que ériger les règles du français actuel comme naturelles contribue à dépolitiser les débats sur la langue, à en dessaisir les locuteurs et les locutrices. Donc effectivement, c'est ça qu'elles animent. En fait, c'est une forme d'animation de la langue, de la rendre justement plus complexe qu'elle n'en a l'air. Par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure la distinction au coiffeur ou chez le coiffeur, où elles expliquent que justement on disait chez le coiffeur, c'était parce que chez vient du latin casa, et que justement le coiffeur, son enseigne, il habitait pas loin de l'endroit où il exerçait sa profession, ce qui aujourd'hui n'est plus, ce lien n'existe plus. Donc il y a des logiques linguistiques et des logiques sociales qui se rajoutent justement à l'histoire des mots et des termes, mais c'est ça qui rend aussi la langue justement vivante. Cette vision politique, je trouve, est très, très intéressante. Si par exemple je vous dis Dobardan, Kakoste, Timaliepo, Ochi, ça, il y a quelques décennies, c'était une langue, c'était le yougoslave. Et aujourd'hui, en ayant cette expression que je viens de vous dire, c'est à la fois le serbe, le croate, le bosnien et le monténégrin, puisque c'est devenu une langue officielle en 2007. Donc en fait, parler une langue, c'est une sorte de elle utilise aussi cette formule, c'est à propos de la langue française, c'est pas la francophonie, c'est la franc-polyphonie, et donc ça montre aussi qu'il y a toujours une diversité de structures qui viennent se rajouter à cette histoire de la langue. C'est des histoires de langue, en fait.
Une diversité de structures, Catherine Portevin, mais il faut bien à un moment, enfin, faut-il vraiment, en tout cas, dans l'histoire de la langue française, à un moment, on a décidé qu'il fallait l'établir, et qu'il fallait établir ses règles de manière un peu strict. Et donc, on s'est attaché non pas au français, puisque le français en tant que tel n'existait pas à ce moment-là, mais à certains français, le français des élites. Et c'est ça aussi que remarquent Maria Candéa et Laëlia Véron, c'est-à-dire que quand on défend le français, on défend le français parlé par une certaine partie de la population.
Oui, et ça, d'une certaine manière, c'est comme ça. Enfin, je sais pas quelle charge éventuellement encore politique il pourrait y avoir à aller reprocher à ces messieurs de l'académie
Il y a quelques dames désormais.
Ces messieurs de l'académie de 1635, de l'académie de 1635, pas de l'académie d'aujourd'hui, d'avoir essayé d'établir les règles du français à partir de celles de la langue qu'ils parlaient. Ça me semble pas forcément très 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 pertinent de vouloir en faire un combat politique. Néanmoins, je trouve que ce qui est très, moi, ce que je, tout en lisant ce livre, que je me suis demandé quel était le problème spécifiquement français du français avec le français, voilà, parce que elle tourne un peu autour de cela, parce que toutes les définitions qu'elle essaye de donner, dont elle essaye de donner la saveur de ce que c'est que de ce que c'est qu'une langue, de ce que c'est qu'une langue vivante, de ce que vient de dire Alyosha à juste titre, tout ça on pourrait l'appliquer à toutes les langues. Pourquoi est-ce qu'on s'empaille particulièrement, nous ? Pourquoi est-ce que ça fait tellement débat ? Et effectivement, il y a peut-être quelque chose d'une marque historique qu'elles évoquent à un moment donné en parlant de la Révolution et de l'effort de la Révolution, d'avoir peut-être créé des nouveaux mots qui ne sont pas forcément passés dans la langue, finalement.
Et ceux qui sont passés dans la langue viennent de l'anglais, ce sont tous les mots de la liberté, de la justice.
Voilà, c'est très intéressant. Mais aussi de montrer que même dans l'élan révolutionnaire, il y a eu un effort d'unification qui était très important. Et l'abbé Grégoire, qui était tout à fait un homme de la Révolution, a été aussi considéré comme le premier jacobin parce que il a imposé l'enseignement du français dans les écoles. Et en en éradiquant les patois. Ça date de cette époque-là et jusqu'à l'école laïque et obligatoire de Jules Ferry où les patois régionaux ont été vraiment éradiqués d'une façon très forcenée. Et je pense qu'il y a encore des gens qui s'en souviennent, pour ceux qui parlaient occitan, par exemple, ou breton. Mais ça, donc cet effort d'unification de la Révolution, il a aussi ça fait partie aussi de l'élan universel. De la même manière que le système métrique a été établi pour mettre fin à toutes les autres façons de mesurer le drap ou le sel. Donc là, il y a quelque chose d'historique que je trouverais tout à fait intéressant de connaître. En fait, c'est ça que je trouve intéressant de connaître. Mais de là à en déduire que forcément il n'y a qu'une haine de l'élite à l'égard du peuple. Je pense que c'est un peu trop rapide. En revanche, ce qu'il y a vraiment, c'est ce qu'évoquait un peu Alyosha tout à l'heure, c'est-à-dire une difficulté à penser sa langue dans le plurilinguisme. Donc à penser sa langue dans la diversité des langues, donc dans la diversité des parlers de cette langue, et dans la diversité donc des accents, et dans la diversité des langues du monde autour. Et ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème français avec la diversité.
Surtout qu'il y a le français de France, mais il y a le français du Québec, il y a le français de
Belgique. Et aujourd'hui, en plus,
évidemment, les différents français dans les anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest, notamment. Alyosha Waldelasowski, puisqu'on parlait justement de cette période de la Révolution française et de la mort des patois, elles accordent un certain passage. Maria Candéa et Laëlia Véron, dans Le français est à nous, elles accordent un passage à cette question de comment meurt une langue. Qu'est-ce que ça veut dire une langue qui meurt? Puisque l'Académie française, au moment du débat sur l'écriture inclusive, a dit c'est la mort de la langue française. Et donc elles en viennent à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire une langue qui meurt? C'est certainement pas une langue qui évolue selon elles, mais c'est une langue tout simplement qui n'est plus parlée, qui n'est plus transmise.
Oui, c'est ça, hein, c'est l'idée que effectivement la langue n'est jamais neutre, la langue est toujours liée à une idéologie, mais liée aussi évidemment à ceux qui la pratiquent. Et donc elles expliquent par des références extrêmement intéressantes sur le fait qu'effectivement le français, d'abord une langue qui s'échange dans le quotidien, dans la vie quotidienne et au sein de la famille, au sein de, effectivement. Mais sur cette question de la pluralité, je vais peut-être un petit peu défendre justement l'Académie française. Je dirais qu'il y a quand même des Académies françaises, parce que c'est vrai que bon, ça.
Parce qu'on l'a pas dit, mais il y a une charge. Enfin, j'ai dit un tout petit peu en introduction, oui. Mais il y a une charge très 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 virulente contre l'Académie française, complètement dépassée, sans aucune expertise.
Une institution d'opérette.
Voilà. Il y a des termes. Oui, c'est exactement ça.
C'est-à-dire que les linguistes que sont Maria Candéa et Laëlia Véron disent, voilà, les académiciens n'ont en somme aucune expertise pour dire ce qu'est la langue.
Au passage, juste, le livre a été manifestement écrit avant l'élection de Barbara Cassin à l'Académie française, qui est philologue et
qui elle a vraiment exactement ce que j'allais dire, parce que
aux
yeux des autrices, il y a Alain Rey qui a lui au contraire un rôle de linguiste très très dynamique, effectivement, qui lui est sensible au métissage. Mais effectivement, l'Académie française, alors il y a Barbara Cassin effectivement qui est philologue et donc, comme l'a dit Catherine, qui a été élue le 3 mai 2018. Il y a aussi un discours très intéressant, c'est celui de Dany Laferrière, qui a été élu, lui, le 28 mai 2015. Et là, effectivement, c'est bien avant l'écriture du livre, qui cite justement à la fois Villon, Paul Valéry, Léopold Sédar Senghor, toutes les références, tous les usages, justement, du français, qui fait que le français n'est pas une langue morte, et une langue extrêmement vivante, plurielle, aux yeux de Dany Laferrière, qui, lui, justement, est très sensible à cette histoire de transformation des langues, en passant d'Haïti à Québec, en faisant des allers-retours, justement. Hein. La langue, c'est un va-et-vient, c'est un aller-retour en permanence d'usages, de rencontres, de partages, de confrontation, de violence aussi, évidemment. Hein. Il y a aussi de très beaux passages dans le texte consacré aussi à Contrefeu de Bourdieu, qui explique justement, et reprend ses formules, hein, quand dire c'est faire, et le pouvoir des mots, et toute la violence symbolique. Donc ça, c'est des pages très intéressantes. Mais oui, bien sûr qu'il y a de la violence dans les mots et dans les discours. Ça, elles ont tout à fait raison, c'est évident. Mais voilà, je reviens juste à cette idée que, voilà, il y a quand même des académiciens qui ont le plaisir des mots. Il y a Michel Serres aussi, qui aime les jeux de mots de Raymond Devos, etc. Donc il y a des académiciens. Alors peut-être effectivement pas de la même génération.
Voilà pour la défense de l'Académie.
Elles ne sont pas, certes, les académiciens ne sont pas de la même génération que nos deux autrices, mais voilà, en tout cas, Dany Laferrière avait fait un très beau texte, en tout cas, sur ce pluriel de la langue française.
C'est vrai qu'il est assez affligeant d'imaginer que la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française est en cours depuis 1935 et qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va arriver et que vraisemblablement, quand elle sera publiée, elle sera déjà obsolète. Et que le terme de chirurgienne, par exemple, au féminin, est toujours jour refusée par le dictionnaire de l'Académie française. Je trouve ça quand même...
Évidemment, de long passage sur la féminisation des mots et la question de l'écriture inclusive, mais on laissera nos auditeurs les découvrir puisqu'il nous reste peu de temps. Je voulais quand même parler d'une notion qui revient assez souvent dans le livre, qui est celle d'insécurité linguistique, qui est utilisée par Maria Candéa et Laëlia Véron, encore une fois, dans cette idée qu'il y a une forme de domination, en fait, qui s'exerce par la langue, et que donc, quand on est sûr dans sa langue, on se permet de négocier avec les règles, alors qu'évidemment, la crainte permanente de la faute de français, de la faute d'orthographe, fragilise encore plus les plus fragiles, Catherine Portevin.
Oui, ça c'est vraiment un aspect extrêmement intéressant. Elle parle d'une notion qui est importante en linguistique, qui s'appelle la grammaire implicite, c'est-à-dire c'est la langue qu'on parle correctement et que parlent les enfants relativement correctement, sans l'avoir jamais apprise. Ce qui fait que les locuteurs français, si je dis, je ne sais pas, Bébert, son frère, les mobilettes, il les répare bien, tout le monde comprend. Même si la grammaire est chahutée, parce que mentalement, nous restituons la grammaire. Quelquefois, le débat sur la question de la faute de français, il est souvent déplacé à partir d'expressions dont on estime qu'elles sont fautives, alors que le locuteur sait très bien qu'elles sont fautives, enfin, qu'elles sont orales, disons, qu'elles sont relâchées. La fameuse connaissance des registres de langue que nous pratiquons tous, même sans le savoir. Effectivement, ce qu'elles appellent l'insécurité linguistique, c'est cette grande peur de mal parler français qui est aussi souvent pratiquée, imposée aussi par les Français qui reprennent les étrangers qui parlent français, qui leur corrigent leurs fautes, qui supportent assez mal qu'on écorche les prononciations ou les accents, etc. Et ça, effectivement, c'est une marque. Il y a toute une mythologie qui est peut-être effectivement très française, du cours d'orthographe, du bonnet d'âne, de la faute d'orthographe, alors que dans la réalité, je pense qu'être nul en maths, ça doit être encore plus insécurisant que de faire des fautes de français.
On fait moins d'équations du second degré dans la vie de tous les jours qu'on écrit.
Nul en calcul, en réalité, ça a des conséquences, sur les parcours scolaires bien plus grands que nul en orthographe. Et pourtant, on est plus humilié par une faute d'orthographe.
Mais c'est justement pour ça qu'il faut lire ce texte d'émancipation linguistique, justement, pour essayer de se débarrasser un petit peu de cette forme de pouvoir. La masculinisation de la langue entre le 17e et le 19e a été quand même assez terrible. Et je voudrais terminer sur le mot de Léopold Sédar Senghor dans Poème liminaire en 48, qui dit « Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux ». Donc c'est une belle forme aussi de libération qu'elle nous propose.
Oui, puisque vous parliez de la masculinisation de la langue, c'est vrai que c'est ce que disent aussi Maria Candéa et Laëlia Véron. Il ne s'agit pas de féminiser, mais de démasculiniser une langue qui était beaucoup moins masculine avant le XVIIe siècle. Le français est à nous. Petit manuel d'émancipation linguistique. C'est donc publié aux éditions La Découverte.
France Culture. Avis critique.
Raphaël Bourgois.
Here's the newborn day. Here you stand, my friend. How are you going to play? Here's your chance today. What's now in your head? What do you have to say? You've got your smile, a true one. Here comes the first round. Stop it there, you're so unique, super mega chic, this is the best time, go on, get what you need. Here's the newborn day, here you stand my friend, how are you going to play? Here's your chance today, will you play it well, what do you have to say? You've got the choice. Come.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose maintenant de nous pencher sur le livre de Lionel Nakache, « Nous sommes tous des femmes savantes », publié chez Odile Jacob. Ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, neurologue, chercheur en neurosciences, Lionel Nakache nous propose depuis plusieurs années une démarche originale qui mélange des considérations scientifiques, éthiques, philosophiques et parfois même mystiques. Son objet, tenter de percer les mystères de la conscience, de ce qui construit la subjectivité humaine. Chez Odile Jacob, il a déjà publié « Un sujet en soi », « Les neurosciences », « Le Talmud et la subjectivité » en 2013, « L'homme raisonnable du microcosme cérébral au macrocosme social » en 2015, « Le chant du cygne »,« Aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes », c'était en 2017. Je conseille la lecture de tous ces ouvrages avant d'aborder le dernier qui poursuit le travail en laissant provisoirement de côté les sciences du cerveau pour poursuivre une intuition née après avoir vu une représentation des femmes savantes, la célèbre pièce de Molière. Notre modernité est secouée par les désordres croisés de la connaissance et de la sexualité. Depuis les fake news jusqu'à hashtag MeToo, de l'essor du complotisme au scandale de pédophilie dans l'église, le malaise contemporain prend sous la plume de Lionel Nakache la forme d'une névrose, le complexe des femmes savantes. Pour décrire cette névrose cognitivo-sexuelle, il se lance d'abord dans une analyse détaillée de la pièce avant d'aller faire une description quasi clinique des symptômes et enfin de proposer une interprétation adaptée à notre époque. La théorie, fruit d'une construction hypothético-déductive, se confronte donc à l'expérience du réel dans une démarche très scientifique. Catherine Portevin, comme dans chacun de ses livres, Lionel Nakache prend des gros risques intellectuels. Est-ce que vous avez été convaincue par ce complexe des femmes savantes ?
Ah oui, moi, convaincue de la thèse, je ne sais pas, mais convaincue de l'intérêt de la discuter. Et je pense que c'est d'une certaine manière ce que Lionel Nakache cherche à faire. Parce qu'il s'aventure tout à fait volontairement hors de ses zones de légitimité. Parce que d'une certaine manière, là c'est un c'est le premier livre, je crois, où il y a si peu de neurosciences. Mais la thèse, on sent qu'il en a sous le pied, parce que c'est seulement page 170 qui signale que actuellement, c'est un grand champ d'études sur le fait que le désir sexuel et le désir de connaissance utilisent les mêmes réseaux cérébraux. Et que ça, c'est en fait, c'est un grand champ de recherche qui n'ignore pas, évidemment. Mais ça prend une page dans le livre, et je crois qu'il a grand soin de ne pas utiliser la science comme argument d'autorité, en disant puisque c'est ce que nous avons observé dans le cerveau, donc c'est. En revanche, il part d'une expérience beaucoup plus empirique, qui est les femmes savantes, et en voyant les femmes savantes, en voyant ne serait-ce que la scène d'ouverture entre les deux sœurs Armande et Henriette, l'une qui veut vouer sa vie à la connaissance et rejette tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, et l'autre qui, au contraire, Henriette, préfère être une imbécile heureuse. Nous avons les deux formes deux formes du désir qui sont. Pourquoi la question qui se pose, c'est pourquoi sont-elles si difficiles à concilier ? Pourquoi est-il si difficile d'avoir à la fois une sexualité et un appétit de connaissance épanoui ?
Voilà. Surtout que ce que va montrer Lionel Nakache, c'est que ça ne concerne pas que les deux
alors
sœurs.
Alors ça, on va y revenir.
Henriette, mais les 10 personnages de la pièce sont concernés par cette alternative, en quelque sorte, ou en tout cas cette impossibilité, selon Lionel Nakache, de concilier une vie sexuelle épanouie avec une vie intellectuelle épanouie. Épanoui, Alosha Wadlasowski.
Oui, effectivement. Alors, c'est très intéressant parce que Molière a créé le 11 mars 1672 les femmes savantes au théâtre du Palais Royal. Et effectivement, dans notre tradition culturelle, c'est surtout une pièce comique qui se moque effectivement du pédantisme, de la préciosité.
Le fameux Trissotin, oui.
Voilà, le sophisme, la mauvaise foi. Et effectivement, les deux personnages qui sont visés sont des hommes. C'est les poèmes de Trissotin, justement, qui font se pâmer les trois femmes savantes, Armande, Bélise et Philippe. Et qui sont justement sous le charme. Et en analysant effectivement précisément justement le texte de Molière, on se rend compte qu'il y a une sorte d'hystérisation totale, de sexualisation totale devant justement cet imposteur, ce filou de Trissotin qui représente justement l'abbé Cotin et donc aussi des
oui, qui est un personnage réel.
Absolument.
À qui Lionel Nakache prend soin de rendre un petit peu hommage, voilà, de sauver un petit peu des foudres de Molière qui ne l'avait pas épargné dans cette dans cette pièce, en effet.
Voilà, et l'idée, c'est que ici, nous sommes tous des femmes savantes. C'est l'idée que les dix personnages de la pièce de Molière incarnent justement cette impossibilité de concilier un équilibre harmonieux entre le désir de connaissance et au contraire la sexualité désirante. Et tous les personnages ici se retrouvent justement piégés dans ce dispositif hystérique. C'est Bélise, hein, quand même, qui est celle qui est la plus qui incarne totalement une sorte de névrose cognitivo-sexuelle ou même d'hystérie totale dans le texte de Nakache, qui explique très bien le processus. Et lui, au contraire, Lionel Nakache va partir de ce symptôme, de cette névrose cognitivo-sexuelle, pour expliquer que nous sommes tous aussi aujourd'hui pris dans cette folie, d'une certaine façon. Il dit, et c'est très intéressant la manière dont il va tirer justement une lecture de notre temps, du monde contemporain, en disant que Molière finalement s'adresse à nous, en disant que nous ne sommes pas dans une société de la connaissance, mais dans une société de l'information, et donc nous avons un rapport extrêmement marchand justement à la connaissance. Et même chose finalement du côté de la sexualité, lorsqu'il parle justement de la pornographie, de YouPorn, etc. Il se dit, voilà, il faudrait arriver à un processus X, Y, X prime, c'est-à-dire...
Voilà, on va y arriver, parce que c'est la seule formule, hein, j'ai envie
absolument.
De dire.
Il y en a plusieurs.
Non, mais celle-ci, c'est celle qui consacre, à laquelle consacre Lionel Nakache tout un chapitre, mais encore un mot quand même sur l'utilisation de la pièce, Catherine.
Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Lionel Nakache s'est vraiment colleté avec la pièce, avec, comme il dit, sincérité, rigueur et logique, et qu'il est vraiment allé au fond de l'analyse de la pièce.
Une des pièces les plus analysées, hein, de Molière, parce que c'est celle qu'il a mis le plus de temps à écrire, plus de 2 ans. C'est un peu son chef-d'œuvre, en tout cas considéré comme tel. Et donc Lionel Nakache ne refuse pas l'obstacle. Bien qu'il vienne des sciences dures, se fait une analyse qui en effet est très très fine, avec son objet qui est donc cette alternative connaissance-sexualité.
Voilà, et moi ce que je trouve très intéressant toujours chez Lionel Nakache, c'est qu'il y a d'abord aussi un ton qu'il faut signaler, c'est qu'il y a quelque chose d'aimable dans sa façon de penser, qui va très très vite, hein, qui part dans tous les sens apparemment, qui va très vite, mais qui est pourtant extrêmement structuré, et il va aimablement, il s'aventure sur les crêtes comme ça, sans forfanterie, sans non plus s'excuser d'être là, donc il y a une espèce de spontanéité et d'appétit à connaître, qui nous fait réellement éprouver. Alors, il y a un aspect que je trouve intéressant sur la question historique, parce que il ne s'affranchit pas, il ne prend pas la pièce comme prétexte à faire une petite théorie. Il essaye d'aller de faire ce qu'il appelle une lecture totale dans la pièce, et c'est qui n'est pas une exégèse, ni non plus une instrumentalisation complète de la pièce, mais véritablement d'essayer de faire surgir un nouveau sens. Et donc là, il va assez loin dans l'analyse des personnages, et surtout ce que il le situe historiquement. Et ça, je trouve que c'est un débat très intéressant sur lequel il avait déjà évoqué, et sur la question du libertinage. Nous sommes en plein XVIIe siècle, au moment où s'affrontent en quelque sorte le jansénisme et le libertinage, et il essaye de faire une lecture de la pièce à la lumière de cet affrontement, et il essaye de réhabiliter ce qu'a été aussi le libertinage intellectuel, qui n'était pas donc les personnages du XVIIe siècle sont plutôt des Cyrano de Bergerac, le personnage historique qu'a utilisé ensuite Edmond Rostand 2 siècles plus tard, et c'est vraiment ça qui l'intéresse. Et je trouve qu'il y a une thèse vraiment intéressante d'imaginer que c'est à ce moment-là de la modernité que s'est noué véritablement à la fois par le libertinage sexuel, le libertinage intellectuel qui a donné aussi les Lumières. On peut dire que Diderot est un libertin de ce point de vue-là. Et ça, c'est très intéressant, parce que et on sent bien qu'il en a sous le pied sur la libido,
la libido
siendi, la libido sensuelle, la libido siendi, et ajoutait Augustin à juste titre la libido dominandi, qui sont évidemment des constantes universelles de l'humanité. C'est ça qui l'intéresse.
Oui, et comme vous le disiez, Catherine Portevin, Lionel Nakache ne fait pas une analyse ex nihilo de cette pièce. Il s'inscrit par exemple dans le grand débat de savoir si Les Femmes Savantes est une pièce misogyne ou non. Et il prend position en disant non, ce n'est pas une pièce misogyne, puisque on peut faire la même analyse finalement sur Les Trois Femmes Savantes différentes qu'on a citées, et sur tous les autres personnages, même les autres personnages masculins, qui sont pris dans cette même contradiction de lier, encore une fois, épanouissement du savoir et épanouissement sexuel, Alyosha Wadlasowski.
Oui, effectivement, Trissotin et Vadius sont totalement, effectivement, sont des caricatures, sont effectivement totalement, rentrent dans ce processus, justement, où ici, masculin et féminin ne sont pas distingués d'une certaine façon. Nous sommes tous hommes et femmes. En tout cas, les dix personnages sont hommes et femmes, des femmes savantes, parce que c'est l'expression, mais ils sont dans ce même processus. Même d'ailleurs, Chrysa, le père de d'Armande et Henriette, est lui-même aussi un bourgeois qui est totalement dans une contradiction, qui essaie d'avoir un discours comme ça, justement, de libertin, tout en étant dans un rapport très, voilà, de soumission à sa femme Philaminte. Et donc, effectivement, ici, le regard que porte Lionel Nakache sur ces personnages permet de dégager finalement aussi justement des structures, Catherine le disait, plutôt universelles, en tout cas qui nous parlent, hein, c'est ce qu'il appelle les fics, hein, les fictions, interprétations, croyances. Là, c'est Lionel Nakache qui justement va associer sa lecture très précise, qui prend vraiment une grande place dans le livre, hein, la lecture de Molière, elle est des femmes savantes est vraiment très importante, très précise. Et ensuite,
c'est à peu près la moitié.
La moitié, on peut dire, effectivement, et c'est là où il va dire que nous ne vivons pas dans une société, effectivement, où l'intimité de notre subjectivité est interpellée par l'expérience, par le réel, mais que justement l'investissement sexuel de notre corps passe toujours par des facteurs historiques, sociologiques, qui font du corps un objet culturel. Et justement, il faut essayer de découvrir la nature fictionnalisante, explique-t-il, de notre vie mentale. Et c'est de là qu'on va pouvoir comprendre justement le rapport au corps, au désir, à la sexualité et aussi à la connaissance, à la pensée.
Catherine Portevin.
Un point sur Molière est-il misogyne, parce que ça revient à plusieurs reprises. Il essaye, bon an mal an, assez honnêtement d'y aller, quoi, de mais sans pour autant, comme il dit, essayer à tout prix de sauver le soldat Molière. Et ça, je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire que aujourd'hui il évoque la mise en scène qu'a fait Macha Makeyev des femmes savantes qui situe la pièce dans les années 70 et qui veut en faire une pièce résolument émancipatrice pour les femmes, et avec sa thèse de dire voilà ce que met en scène Molière, c'est le désarroi ou l'effroi des hommes face à l'illimité du désir féminin. Moi j'ai un peu tendance à penser, après avoir lu Lionel Nakache, que c'est un peu exagéré, parce que il y a quand même deux mystères, deux objections à ça. C'est pourquoi c'est quand même Molière intitule sa pièce Les femmes savantes, et que tout le monde peut y sentir éventuellement un oxymore. Une femme savante, ça fait rire, voilà. Un corps qui pense, surtout un corps féminin, c'est quand même embêtant. Donc il y a quand même quelque chose de... Quelle est la part de critique que met Molière dans ce titre, c'est une question à laquelle que n'évacue pas du tout Lionel Nakache. Et l'autre, c'est que les deux personnages que sauve Lionel Nakache, qui ne sont pas atteints de ce clivage entre le désir de la sexualité et la connaissance, ce sont Ariste et Clitandre, et que ce sont des hommes. Pourquoi ce sont des hommes? Il y aurait pu y avoir un personnage féminin qui aurait pu se sauver de cela. Et alors, il explique ça historiquement. Je pense que ça n'épuise pas le sujet, à mon avis. Son argument, il épuise ça historiquement, justement par cette question du libertinage, en disant que finalement, l'accès à la connaissance étant une chose plutôt récente pour les femmes, ce clivage entre la sexualité et la connaissance est encore plus forte chez les femmes que chez les hommes, puisque cet accès à la connaissance est relativement récent pour elles. Bon, c'est une explication, on peut revenir. Sur la fiction, c'est très important.
Allez-y.
Sur la fiction, c'est un thème très important pour Lionel Nakache, parce que il a écrit déjà tout son travail très théorique. Le plus important, c'est sur son travail sur ce qu'il a appelé le nouvel inconscient. Et donc c'est toute une grande discussion avec Freud, en fait, où il a démontré en fait que Freud n'avait pas découvert, en croyant décrire l'inconscient, il décrit en fait des modalités de la conscience. Que ça c'est la partie neurosciences très de Lionel Lionel Nakache. Et ce qu'il appelle les FIC, justement, fiction, interprétation, croyance, c'est justement les trois mécanismes par lesquels notre subjectivité se fabrique comme subjectivité, a conscience d'elle-même. Et ça passe par cette extraordinaire capacité humaine à fictionnaliser l'espèce fabulatrice dont parlait aussi l'écrivaine Nancy Huston. Donc il fonctionne comme ça aussi par ses acronymes, les FIC, qui fabriquent du XY X'.
J'allais vous y emmener et vous avez fait une transition parfaite en parlant de subjectivité, Catherine Portevin, puisque si Lionel Nakache ne refuse pas l'obstacle en venant des sciences vers l'exégèse littéraire, nous qui sommes ici plus proches des sciences sociales, on s'est un peu gardé de trop parler de la dimension plus scientifique, on va dire, de ces livres, et notamment sur cette question de la conscience, de la subjectivité, mais abordée par Lionel Nakache, et donc de cette question de l'intersubjectivité, c'est-à-dire comment est-ce que cette relation entre le savoir et la sexualité sont abordées par Lionel Nakache pour essayer de comprendre l'intersubjectivité, c'est-à-dire comment on évolue dans le rapport à l'autre et comment une connaissance va venir nous faire évoluer. Donc X, c'est moi, Y, c'est vous, Alyosha Walozewski, et quand avec quelque chose qui intervient, ça va donner un X', XY, X', et puis après, voilà, nos relations comme ça vont continuer à s'enrichir les unes les autres et donc à toucher notre subjectivité à l'un et à l'autre.
Voilà, effectivement, vous l'avez dit, il y a une sorte de transformation dans l'échange, dans le partage, et finalement, il analyse une sorte de phénoménologie sociale qui passe par le corps, qui passe par le contact, à travers effectivement des termes de neurosciences, d'analyse, qui montrent que la recherche finalement, la solution qu'il faut essayer d'avoir en tête, c'est le plaisir, à la fois le plaisir intellectuel, le plaisir sexuel. Comment est-ce qu'on peut justement les trouver, hein, finalement? Et c'est dans justement ce partage, cette mutation, cette transformation. X passe par Y dans une sorte d'échange d'extériorité à son intériorité, d'extériorité à soi, et ça donne effectivement X prime, c'est-à-dire un processus de transformation, d'échange, de modification, qui montre que là aussi il utilise des termes en disant que le plaisir sexuel, la sexualité, la connaissance partagent une même méta-structure, justement, où les mêmes réseaux cérébraux, l'a dit Catherine, et c'est-à-dire ça va passer par les PTI, un autre terme aussi qu'il utilise, c'est-à-dire pénétration, transformation subjective et intersubjectivité, ce qui montre, je pense, son idée, c'est vraiment la libéralisation aussi de la sexualité et de la connaissance dans une sorte d'échange, et c'est là aussi où la fin du livre est très intéressante, parce qu'il prend des exemples concrets où il analyse justement à la fois les limites et les possibilités de cette réalisation, en analysant par exemple le mouvement MeToo. Il le fait de manière très très subtile, justement très très complexe, en disant que ça contient une possibilité justement d'un modèle de société où la sexualité pourrait s'épanouir dans une mutualisation du désir. Si ça ouvre effectivement la parole, c'est qu'il y a une subjectivité qui peut, c'est ça, c'est une possibilité encore une fois, qui peut être ouverte à une sexualité plus épanouie, où le désir peut enfin trouver une incarnation, une place. Mais c'est très intéressant parce qu'il essaie justement dans cette trajectoire très originale et très personnelle qui tient le lecteur. En fait, on est vraiment tenu à la lecture en partant des femmes savantes jusqu'à MeToo.
Oui, puisque Lionel Nakache est un scientifique, il le dit, le test ultime de la validité d'un produit de l'intelligence tant humaine qu'artificielle n'est autre que l'épreuve dite de la généralisation. Et donc toute la dernière partie va essayer de généraliser sa théorie développée à partir de cette intuition en ayant vu les femmes savantes, de la généraliser à un certain nombre de phénomènes contemporains, donc hashtag MeToo, YouPorn, vous l'avez dit, c'est-à-dire l'accès quasi illimité et gratuit aux vidéos pornographiques sur Internet, mais qu'il relie à Wikipédia, donc voilà, toujours cette relation entre connaissance et sexualité, Catherine Portevin.
Alors, je crois que dans cette formule X, Y, X', le Y désigne soit l'information, soit un autre, qui pourrait être dans ces cas-là un autre X. Ce qu'il analyse d'une manière générale, depuis le libertinage jusqu'à aujourd'hui, c'est la facilitation de l'accès. C'est-à-dire que nous avons des accès beaucoup plus faciles à ces Y, à cette information ou à ces corps. Et que cela ne veut pas dire qu'il y a une rencontre. Enfin, ou que s'il y a une rencontre, elle n'est pas porteuse de transformation de soi. C'est ça, en gros, sa thèse. C'est-à-dire de dire que, en fait, ce qui fait problème et ce qui est la source de la névrose, donc des clivages éventuellement entre la sexualité et la connaissance, ou de l'échec de l'un ou de l'autre, c'est la constitution de moi carapassonné qui refuse, en fait, de se laisser transformer par cet extérieur qui les touche et qui les envahit d'une certaine manière. Il a parlé dans un autre livre d'une société épileptique à cause de cet accès absolument généralisé à toutes les informations, mais sans forcément que tout cela fabrique de la transformation de soi, une résistance, en fait. Chacun, c'est ça qu'il diagnostique dans tous les phénomènes qu'il traite, c'est-à-dire la résistance à se laisser transformer par l'inconnu, d'une certaine manière.
Lionel Nakache, nous sommes tous des femmes savantes. À lire, donc, vous l'aurez compris, c'est chez Odile Jacob.
L'instant critique.
L'instant critique, les dernières minutes de cette émission. Catherine Portevin, la lumière rouge vient de se rallumer, et donc ne mettez pas la main devant votre bouche, puisque vous allez devoir parler d'un objet culturel qui vous a particulièrement marqué, que vous voulez partager avec nos auditeurs.
Alors, j'ai reçu ce petit texte qui est édité aux éditions du Sonneur, qui s'appelle Incognita, Incognita, ou le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas, d'un auteur anglais qui s'appelle Mark Forsyth, qui est étymologiste et qui est aussi un humoriste. Et donc, c'est un tout petit texte que vous trouverez, je pense, que dans toutes les bonnes librairies auprès des caisses, et qui coûte 5,50 €. Et évidemment, j'ai fait un rapport tout de suite avec ce que l'on vient de dire sur Lionel Nakache, c'est-à-dire la possibilité de se qu'est-ce que c'est que prendre connaissance, qu'est-ce que c'est que se laisser transformer par ce qu'on ne connaissait pas. Et on a souvent dit que l'Internet nous conduisait vers ce qu'on connaissait déjà. Et ce petit texte est une critique, évidemment, de ces bulles informationnelles que crée Internet, et un éloge de la librairie, au sens où la librairie, c'est dans une librairie que je trouve le livre que je ne cherchais pas, parce que je ne savais pas j'ignorais qu'il existait, en gros. Et alors, ce qui est très amusant dans ce texte, qui est très vif, c'est que l'auteur part d'une déclaration de Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire de la défense américaine dans les administrations de George Bush, qui avait fait cette citation. Il y a en parlant, lui, là, pour le coup, de la connaissance qu'on nous pouvions avoir des zones en Irak armées ou non, il avait dit: il y a des choses que nous savons savoir, d'autres que nous savons ne pas savoir, c'est-à-dire que nous savons ne pas savoir pour le moment, mais il y a aussi des choses que nous ne savons pas ne pas savoir. Des choses que nous ne savons pas, que nous ne savons pas. Et tout le monde avait éclaté de rire en écoutant Donald Rumsfeld, et lui reprend cette citation en disant: voilà, je cherche ce que je ne sais pas. Je cherche à savoir
ce que je ne sais pas, que je ne sais pas.
Ce que je ne sais pas, ce que je ne sais pas. Donc voilà, je sais que je n'ai pas lu Guerre et Paix, c'est bien dommage pour lui, mais il n'y a que en librairie que je peux découvrir que je ne savais pas que tel livre existe et que je peux le lire. Et donc c'est un hommage à l'acquisition du savoir.
Il y a la sérendipité, Alyosha Valdazovski.
Alors mon chemin va croiser celui de Catherine Portevin, parce qu'on va parler d'un autre Donald, pas Rumsfeld, mais Donald Trump. J'ai choisi.
Et pas Donald Duck.
Non, c'est vrai qu'il y en a d'autres. J'ai choisi la revue dessinée, dont le numéro 23 vient de paraître. C'est une revue, en fait, qui présente l'actualité et les informations, mais à travers des planches, des bulles, des dessins, des illustrations. Et donc, on peut découvrir à travers la bande dessinée, il y a 225 pages, des enquêtes, des reportages et des analyses. Alors, parmi les différents sujets abordés dans ce numéro du printemps 2019, il y a le Dieselgate, par exemple, qui montre que malgré les alertes des scientifiques, l'État français a continué à soutenir le carburant à grand renfort de cadeaux fiscaux, ou alors la réflexion sur le lien entre violence et lutte sociale, de très belles planches qui s'appellent les raisons de la colère. Mais alors, j'ai choisi justement une BD sur quelques pages qui raconte la jeunesse militaire de Donald Trump lorsqu'il était élève à l'Académie militaire, et lui, il a été épargné et réformé pour un bec osseux au pied. On le voit d'ailleurs sous forme de dessin, évidemment, consulter le médecin de l'académie. Donc il a un sursis médical, et l'idée, évidemment, c'est de montrer comment le commandant en chef des armées n'a jamais servi sous les drapeaux, et ce qui a d'ailleurs valu à Donald Trump un sacré clash avec le sénateur républicain John McCain, lui vétéran du Vietnam et ancien prisonnier de guerre.
Oui, qu'il avait dit, moi, si j'avais été fait à la guerre du Vietnam, je n'aurais pas été prisonnier. Voilà, ce qui évidemment lui avait valu un certain nombre de remarques désagréables. Oui. Sachant que John McCain y a passé quelques années aux mains des Vietnamiens. Voilà. Bon, merci beaucoup, Aliosha Walaszewski et Catherine Portevin. Avis critique, c'est terminé. Attachée d'émission, Catherine Donné, à la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar, et à la prise de son, Guillaume Ledu. Vous pouvez évidemment télécharger, réécouter cette émission, vous abonner au podcast sur France Culture. Dans quelques instants, Jukebox.